Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la vie de Jésus, cinquième partie, son baptême. La vie de Jésus de Nazareth n'est pas un conte de fées, une histoire qui commence par « Il était une fois dans un pays lointain ». Au contraire, l'évangile de Luc est très précis quand il situe le commencement du ministère de Jésus. Comme les trois autres évangiles, il nous parle de Jean-Baptiste qui a annoncé au peuple juif la venue du Christ. Il dit que Jean a commencé à prêcher la 15e année du règne de Tibère César. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de la Bilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Luc 3, versets 1 à 2. Tous ces personnages sont connus des historiens, même en dehors de la Bible. Pareillement, Jean-Baptiste est mentionné par des écrivains non chrétiens du 1er siècle. Aujourd'hui, nous allons parler de cet homme, Jean, le fils de Zacharie, et de la manière par laquelle il a fait connaître Jésus à tout le peuple juif. Tout comme la venue de Jésus avait été prédite par des prophètes de Dieu des siècles avant sa naissance, de même les prophètes avaient parlé d'avance de Jean. Matthieu cite, par exemple, le prophète Ésaïe, qui avait vécu 700 ans avant le temps de Jésus et de Jean. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Matthieu 3, versets 1 à 3. Jean n'a pas, bien sûr, préparé une route physique, mais ce langage est employé pour faire penser à l'arrivée d'un très grand personnage. Même aujourd'hui, quand un président ou un ministre doit se rendre dans un endroit, on a l'habitude de nettoyer et réparer la route sur laquelle il doit voyager. On envoie aussi des messagers qui annoncent la venue du chef de l'État et qui apprêtent la population pour le recevoir dignement. Or, Jean est venu pour préparer l'arrivée publique du plus grand roi qui puisse être. Mais la manière de préparer la venue de ce roi n'est pas de nettoyer les rues et repeindre les maisons. Il s'agit plutôt d'appeler le peuple à se repentir de ses péchés. Un acte par lequel Jean soulignait son message de repentance était le baptême. Luc dit que Jean prêchait le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Luc 3, verset 3. En se faisant baptiser, une personne avouait son besoin de se repentir et son intention de changer. Être baptisé, littéralement immergé dans l'eau, portait l'idée d'un bain de purification de péché. Selon Jean 10, verset 41, Jean n'a fait aucun miracle, mais par la force de sa prédication, il a convaincu beaucoup de Juifs de leur besoin de changer de comportement et de demander pardon à Dieu. La majorité d'entre eux se sont rendus auprès de lui pour être baptisés. Les autorités juives ont envoyé auprès de Jean des hommes pour se renseigner sur ce prédicateur qui attirait de si grandes foules. Ils voulaient savoir qui il se disait et pourquoi il était venu. Trois possibilités leur venaient à l'esprit. Jean prétendrait être le Messie lui-même, celui que tout Israël attendait, ou bien Élie, qui était censé revenir pour préparer le monde avant l'arrivée du Messie, selon Malachie 4, verset 5, ou bien le prophète, dont Moïse avait parlé en Deutéronome 18, verset 15, et qui en fait était aussi le Messie, selon Actes 3, verset 20 à 24. Jean pourtant niait qu'il était l'un des trois. Selon lui, il n'était qu'une voix qui invitait les hommes à préparer le chemin pour le Seigneur, selon les paroles d'Ésaïe que nous avons entendues. Il voulait dire en effet, « Je ne suis pas quelqu'un d'important. Je ne suis qu'une voix, disant aux gens de se préparer, car le roi vient. » Il est vrai que Jésus dirait plus tard que Jean était cet Élie qui devait venir. Matthieu 11, verset 14 et chapitre 17, versets 12 et 13. Si Jean a nié être Élie, c'est peut-être dans le sens qu'il n'était pas Élie ressuscité ou réincarné. Il n'était pas Élie en personne, mais plutôt celui qui était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc 1, verset 17. Les dirigeants juifs se demandaient donc pourquoi Jean baptisait les hommes, particulièrement des juifs. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean 1, verset 25. On comprenait l'idée d'un baptême de purification pour ceux qui se convertissaient au judaïsme. On avait déjà l'habitude de leur imposer cela. Mais les actions de Jean suggéraient que le peuple choisi, les Juifs, avaient besoin d'être purifiés. Or, ces responsables juifs considéraient qu'ils étaient déjà plus justes que les autres peuples. Jean n'a pas répondu directement à leurs questions. « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Jean 1, versets 26 et 27. Celui qui venait après lui était tellement plus grand que Jean que celui-ci n'était même pas digne de faire pour lui la tâche d'un esclave. Jean dit en effet, « Le roi vient, et pour sa venue, vous avez besoin d'être purifiés autant qu'un non-juif quelconque. » Un jour, quelqu'un s'est présenté à Jean pour être baptisé. Mais Jean dit que cette personne n'avait pas besoin de cette purification. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Matthieu 3, versets 13 à 15. Plusieurs passages de la Bible nous affirment que Jésus était sans péché. 1 Pierre 2, verset 22 l'appelle « lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude ». Étant donc sans péché, il n'avait aucun besoin d'être baptisé pour la rémission des péchés. Il n'avait pas besoin de se repentir. Jean a reconnu cela. Mais Jésus lui a expliqué qu'il le faisait pour accomplir tout ce qui est juste. En se faisant baptiser, Jésus validait le ministère de Jean. Il reconnaissait que c'était bien Dieu qui l'avait envoyé. En plus, Jésus se soumettait en tant qu'homme à tous les commandements de Dieu qui concernaient les hommes. Et il donnait ainsi un exemple positif que tous devraient suivre. Essayons de clarifier un point ici. Nous ne sommes pas baptisés aujourd'hui parce que Jésus a été baptisé. Le baptême de Jean que Jésus a reçu n'est plus en vigueur. Nous voyons en Actes 19 que des hommes qui avaient reçu ce baptême devaient être baptisés de nouveau et au nom de Jésus. Oui, celui qui veut le pardon de ses péchés aujourd'hui doit se faire baptiser. Mais il reçoit le baptême que Jésus lui-même a ordonné avant de retourner au ciel. Le baptême que nous devons recevoir est plus qu'un bain de purification. C'est une immersion à l'image de la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. C'est un acte qui nous ajoute à l'Église, qui n'avait pas été établie quand Jean prêchait. C'est un acte par lequel nous recevons le don du Saint-Esprit. Mais voici ce que nous retenons de l'exemple de Jésus dans son baptême. Il se soumettait à tout commandement de Dieu qui était en vigueur en son temps. Nous devons nous soumettre à tout commandement de Dieu qui est en vigueur actuellement. Jésus a fait un long voyage à pied pour obéir au commandement de se faire baptiser, bien qu'il n'en ait pas besoin comme nous pour son salut personnel. L'eau n'est pas toujours tout prêt pour le baptême. Puisque Jésus a quitté Nazareth pour se rendre dans le désert de Judée près du Jourdain, c'est-à-dire près de là où le Jourdain se jette dans la mer morte, nous savons que la distance que Jésus a parcourue pour se faire baptiser était d'environ 105 km, sens unique. Si donc quelqu'un était obligé de faire 100 km à pied pour se faire baptiser, ce ne serait pas plus que ce que Jésus a fait, lui qui n'avait pas de péché. on ne devrait pas chercher à s'excuser de ce devoir à cause de la distance ou de tout autre obstacle. On n'a pas raison non plus de modifier le commandement de Dieu, de mettre l'aspersion à la place de l'immersion pour le rendre plus facile. Jésus n'a pas cherché la facilité. Il a cherché ce qui était juste, ce qui était selon les commandements de Dieu. Dans son baptême, Jésus nous a donné un bon exemple d'obéissance à Dieu. Mais il fut en même temps, par son baptême, manifesté comme celui que Jean-Baptiste annonçait. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, versets 16 et 17. Dieu lui-même a donc rendu témoignage à l'identité de Jésus, par la voix du ciel et par l'Esprit en forme de colombe. Jean aussi a rendu témoignage de Jésus. « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean 1, versets 29, 33 et 34. Jean a continué de prêcher pendant quelques mois après avoir baptisé Jésus. Ensuite, il a été arrêté et mis à mort par le roi Hérode Antipas, dont Jean avait condamné le péché. Mais avant son arrestation, les disciples de Jésus étaient devenus plus nombreux que ceux de Jean. Au lieu d'être jaloux, Jean s'en est réjoui. Il rappelle à ses disciples qu'il leur avait toujours dit qu'il n'était pas lui-même le Christ. Il était plutôt comme l'ami de l'époux. Il dit, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3, versets 29 et 30. Le shoshben, ou ami de l'époux, avait un rôle spécial dans le mariage juif. Il servait de liaison entre l'époux et l'épouse. Il faisait les préparatifs pour la fête. Il distribuait les invitations. Il présidait au festin. Il avait aussi le devoir de garder la chambre nuptiale et de refuser l'entrée à tout homme, sauf à l'époux. Il n'ouvrait la porte que lorsque, dans l'obscurité, il entendait et reconnaissait la voix de l'époux. En entendant cette voix, il le faisait entrer et s'en allait en se réjouissant, car il avait achevé sa tâche, et les amants étaient ensemble. Jean-Baptiste avait eu le rôle de faire venir ensemble Christ, l'époux, et Israël, l'épouse. Ce n'était pas avec regret qu'il dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean était un grand serviteur de Dieu. Jésus dit à son sujet qu'il était plus qu'un prophète. Matthieu 11, verset 9. Mais Jésus est infiniment plus grand. C'est lui qui est notre roi, celui dont il fallait préparer le chemin. Notre sauveur, l'agneau qui ôte le péché, et notre modèle en toutes choses. C'est vers lui que Jean dirigeait les regards des Israélites. C'est vers lui que nous voulons diriger le regard de tous les hommes aujourd'hui. Nous vous invitons donc à continuer de suivre cette émission pour mieux connaître Jésus et mieux le suivre.
Grandis en moi, Seigneur, et que je diminue, c'est là tout mon souhait, à te le voir mon cœur, car j'attends ta sur la nuit. sera fait semblable. Contemplant ta beauté. Beauté de Jésus-Christ, perfection divine, je j'accepterai joyeux la sainte discipline.